Radio Stable.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
20 ans après le génocide rwandais, Kigali vous étonnerait. La capitale rwandaise mise sur le numérique, le pays mise sur l'éducation, la technologie. Tout petit pays, énorme tragédie, mais aujourd'hui peut-être une longueur d'avance en Afrique. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir aussi, vous verrez grâce à Florence Paracuelos que les Belges ont des idées pour mieux recruter dans l'armée, que la Lune donne des nouvelles et que la Chine invente un nouvel hashtag contre l'homophobie. 18h50, Trump saison 2 et les noms d'oiseaux qui circulent toujours entre le président Trump et l'ancien patron du FBI. 18h55, le monde à l'envers, Jean-Marc Four qui se demande si on ne se trompe pas de conflit quand on a les yeux sur la Syrie. Lui regarde plutôt ce soir vers Tombouctou. Mais avant, nous y allons quand même en Syrie. On va surtout se demander ce qu'on a gagné dans ces frappes. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Phase 2, donc, 48 heures après les frappes des États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, bien sûr. On va savoir plus ou moins rapidement si des fruits politiques et diplomatiques sont à tirer de ces opérations militaires, si on y gagne quelque chose, si la Syrie y gagne quelque chose. Qui sort vainqueur de ce genre de choses, de ces bombardements destinés à faire du bruit, avant tout, probablement utile et on y viendra. Mais jusqu'où ce bruit porte-t-il? Bonsoir Jean-François Daguzan.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, professeur associé à l'Université de Paris, de Panthéon-Sorbonne notamment. Pour commencer, l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui pour l'instant n'arrive pas à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire d'aller voir réellement dans la Ghouta si il y a bien preuve d'armes chimiques. Est-ce que finalement c'est la preuve qu'on attend, le fait de ne pas pouvoir aller y mettre les pieds? Est-ce que ça coupe ce débat-là définitivement?
Ça participe effectivement de peut-être de la confirmation de ce que des choses pas très claires ont été commises et peut-être très abominables pour être encore plus radical. Avec un paradoxe, c'est que jusqu'à maintenant, le régime syrien a laissé travailler la commission, ce qu'on appelle dans le jargon technique. Le mécanisme conjoint d'enquête, puisqu'il est diligenté à la fois par les Nations Unies et par l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, et qui curieusement, le régime syrien et la Russie ont laissé fonctionner jusqu'à maintenant. Sur le terrain.
Donc là, c'est quoi? C'est une histoire de coup de menton?
Alors,
parce que ça peut aussi être
s'agit-il justement d'une façon de dire que puisque vous n'avez pas laissé souhaiter se dérouler un processus...
Puisque vous avez frappé avant, etc.
De façon assez intéressante, avait confirmé l'usage d'armes chimiques lors de l'affaire de Khan Cheikhoun en avril 2017, donc par le régime.
La raison pour laquelle Trump avait frappé à ce moment-là.
Absolument, avait engagé la première frappe. Eh bien, il s'agit de dire que, puisque vous n'êtes pas capable d'attendre que de dire que nous avons commis ces crimes... qui est quand même tout à fait particulier, eh bien, nous interdisions à la Commission de pénétrer dans le pays. C'est à la fois, je dirais, une espèce de cynisme paradoxal qui fait que, d'une manière ou d'une autre, le régime assume totalement ces abominations.
Est-ce que, Jean-François Daguizon, on peut dire que c'est la théorie des Américains que les Russes en profitent pour faire le ménage, en fait, pour enlever les traces éventuelles, donc ça laisse encore plus de temps, ça rajoute encore plus de temps?
Alors, évidemment, plus le temps passe, les témoins disparaissent, les traces techniques s'effacent, les cadavres sont brûlés, donc ce qui fait qu'à la fin, il risque de n'y avoir plus grand-chose à prouver, sauf de disposer des renseignements qui ont été utilisés pour les frappes. C'est peut-être aussi le fait de dire du côté des Russes que le comportement des Occidentaux désormais est traité comme il se doit, c'est-à-dire par le mépris et par le rejet, suite à cette action considérée comme inconsidérée par le Kremlin.
Alors, précisément, le pari, c'est d'ailleurs en partie ce que disait Emmanuel Macron hier, le pari de ces frappes, c'est qu'elles ont redonné de la crédibilité, elles nous ont redonné de la crédibilité, et notamment auprès des Russes. Comme ça, ils comprennent bien ce que c'est qu'une ligne rouge, et que lorsqu'on s'en approche, on tape derrière. Est-ce que réellement, vous avez le sentiment qu'on a gagné en crédibilité auprès des Russes?
Alors, c'est en partie vrai, dans la mesure où, Et c'est le paradoxe de la doctrine de la ligne rouge, c'est que lorsque une ligne est franchie et que vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez, vous vous décrédibilisez totalement. C'est ce qui s'était passé en 2013, lors de la première attaque chimique, quand le président Obama avait renoncé, alors même que la France était prête à passer à l'acte la première. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ennemi considère que vous lui avez donné un blanc-seing pour continuer. Mmh. Et chez les Syriens, le régime syrien, dont la pratique de la violence est un fondement du régime, là, pour le coup, quand vous donnez cette autorisation informelle, d'une certaine manière, ou c'est compris comme tel par le régime, vous pouvez être sûr qu'ils vont recommencer. Donc, à partir de là, envoyer une attaque de cette ampleur, c'est dire que désormais, il s'agirait de ne pas recommencer et aussi, reconnaissons-le, d'essayer de protéger une population civile qui en est à sa 45e, selon les estimations, attaque chimique depuis 2013.
Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que désormais, les Russes ont été voir Bachar en lui disant « il va falloir se calmer » ? Parce que honnêtement, ils ont déjà dit la même chose. Ils l'ont dit en 2013, il y en a eu une cinquantaine des attaques chimiques. Ils l'ont dit en 2017, dont nous savions que c'était aussi une attaque chimique et il ne s'est rien passé. Donc, est-ce que ça veut dire que Poutine a perdu la main ? Ou est-ce qu'il peut effectivement aller voir Bachar en lui disant « maintenant c'est fini » ?
Bachar el-Assad a la chance de pouvoir jouer sur plusieurs pieds. Et c'est bien le problème qui est, auquel sont confrontés les Russes, mais également les Iraniens, où quand ça ne va pas d'un côté, ils penchent de l'autre, et où d'une certaine manière, personne ne sait qui dirige qui dans cette affaire.
Et Bachar joue l'un contre l'autre, allons-y.
Bachar joue l'un contre l'autre, et Bachar est incontrôlable, parce qu'entraîner les Iraniens et surtout les Russes dans une politique du pire, c'est d'une certaine manière le pacte de la mafia. C'est-à-dire, vous tuez quelqu'un devant les yeux de votre complice, il est obligé de suivre. Et je pense que d'une certaine manière, et vu la manière dont les frappes ont été diligentées, que les Russes, qui ont été mis au courant, qui ont fait en sorte de peut-être d'indiquer que c'était plutôt par là qu'il fallait aller et pas ailleurs, de faire en sorte de mettre à l'abri et que la coalition ait mis à l'abri les soldats russes de tout risque de dommages, nous permet peut-être de comprendre que dans cette affaire-là, les Russes regagnent la main aussi sur les Syriens et que leur marge politique a augmenté.
Est-ce que les Russes, derrière ce discours et ces hocris, ne sont pas aussi en train d'essayer de se trouver une porte de sortie ? Si on commence à reparler de négociations, Vladimir Poutine va arriver grand prince en disant « Ah ben écoutez, oui, pourquoi pas, commençons à discuter ». Et au final, ça l'arrange, parce que comme vous le disiez, il ne maîtrise plus Bachar el-Assad.
Et oui, parce que Bachar el-Assad agit désormais, considérant qu'il a gagné, sans frein et sans limite. Et que d'une certaine manière, violence... exagéré par l'arme chimique, violence par les armes conventionnelles. De toute façon, il sait que c'est la violence qui va le faire gagner, le faire aller jusqu'à la frontière israélienne, reconquérir l'essentiel du territoire. Et à partir de là, l'idée même de négociation en dehors de la capitulation sans condition est l'idée qui désormais le pousse. Ce qui fait que les Russes, et même les Iraniens, à certains moments, sont en train de suivre quelqu'un qui est rentré dans une logique folle, sachant que de toute façon, il a gagné. Et c'est d'une certaine façon, la possibilité pour la Russie de retrouver un moyen de pression sur Bachar el-Assad.
Est-ce qu'on a renforcé les liens entre la Russie et l'Iran ? Est-ce qu'on a distendu les liens entre la Russie et l'Iran ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ces frappes entre ces deux alliés de circonstances ?
Je ne crois pas que ça ait pesé sur les relations russo-iraniennes. Je pense que les Iraniens ne sont pas plus satisfaits de voir la dérive du régime, sachant quand même que via le Hezbollah et les Pasdaran et tous les mercenaires venus affrétés par l'Iran depuis l'Afghanistan notamment pour venir prêter la main à un moment où l'armée syrienne était complètement sur le flanc, fait que les Iraniens risquent, comme les Russes, de perdre l'acquis de cette victoire. Et que donc, d'une certaine manière, tout le monde a intérêt à ce que Bachar comprenne qu'il y a un moment où on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite et où la négociation redevient une nécessité. Il y a peut-être un élément très important qu'il faut avoir en tête. C'est la survivabilité même de Bachar el-Assad en tant que personne qui peut être remise en cause si les Russes et les Iraniens considéraient qu'il devient un véritable frein à une sortie de crise.
Donc le lâcher ensemble, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut se passer s'ils décident ensemble de le lâcher? Comment ça se passe où on en est?
Il y a des options.
Ils ont des moyens.
des options sans limite qui peuvent être envisagées, de l'exil dans une dacha à un accident.
Et du coup, si négociation il y a à nouveau, est-ce que c'est nous qui avons la main, nous les Français, en l'absence plus ou moins des Américains, dont on ne sait pas très bien à quoi ils jouent, entre Trump qui dit qu'il va partir, Trump qui dit qu'il va rester, etc. Est-ce que finalement, nous, on a repris la main là-dedans?
Le problème, effectivement, c'est que la France, face aux incertitudes que pose désormais la politique de M. Trump, se retrouve en première ligne, et avec la faiblesse aujourd'hui politique des Britanniques, en première ligne pour gérer le conflit. Or, notre position n'est pas bonne depuis le début, dans la mesure où nous avons été alignés sur un des deux camps, et alignés de façon intense, politiquement, militairement.
Mais ça a switché quand Macron
est
arrivé président.
À ce moment-là, les Syriens du régime ont toujours refusé que la France soit considérée comme un élément de négociation ou de médiation, puisqu'elle était considérée comme pro-opposition. Les Turcs sont aussi dans cette même position vis-à-vis des Kurdes de Syrie, puisque la France est considérée comme trop proche des Kurdes pour représenter un élément de médiation. Mais peut-être que par l'itération successive des solutions, la France, dont l'histoire elle-même fait que sa présence et sa capacité d'action sur le terrain du Proche-Orient est historique, peut tout d'un coup retrouver une marge de manœuvre qu'elle avait perdue ab initio.
Ce que dit Emmanuel Macron également, c'est « nous avons séparé les Russes et les Turcs ». C'est ce qu'il a dit, puisque Erdogan, assez curieusement d'ailleurs, a approuvé les frappes françaises, américaines et britanniques. Est-ce que réellement, effectivement, il y a eu... Alors évidemment, Russes et Turcs disent l'inverse, mais est-ce qu'il y a eu un moment d'incompréhension, de friction entre Turcs et Russes qui peut être intéressant, on va dire ?
Les Turcs se sont retrouvés dans une situation très inconfortable. Les Turcs, ne l'oublions pas, sont un des piliers de l'OTAN et un des piliers de l'OTAN dans la région proche et moyen-orientale. Refuser de soutenir une attaque de ce niveau, à un moment d'ailleurs, à une époque où la Turquie avait condamné toutes les autres attaques par le passé et avait même été prêt à des actions militaires en 2013 à l'époque, fait que M. Erdogan ne s'est pas déjugé, ni en tant qu'allié de l'OTAN, ni en tant que défenseur d'une population civile qu'il avait proposé de protéger. Donc cette rupture, elle s'est faite d'une façon assez logique. C'est peut-être un très bon coup joué de ce point de vue-là par la coalition. Les Russes et les Turcs se sont retrouvés pour le coup en désaccord officiel dans cette affaire.
Qu'est-ce qui se passe désormais à Idlib et aussi plus au sud à Dera, puisqu'on sait bien que pour finir le travail, c'est là que va se diriger Bachar el-Assad. En gros, c'est cet énorme paradoxe. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des armes chimiques. Et donc, si vous utilisez des armes chimiques, nous frappons. Mais sinon, les armes conventionnelles, allez-y. Et faites tout le dégât que vous voulez, autant à Idlib qu'à Dera.
C'est toute la difficulté de cette affaire. Si on avait frappé en 2013, à un moment politique où l'on pouvait retourner la situation sur le terrain, la situation militaire, peut-être que la face de la Syrie en aurait été transformée. Les Russes n'étaient pas là, les Turcs n'étaient pas vraiment engagés.
Et
il
Daesh
y avait
non plus.
Cette opportunité véritablement stratégique de changer la face de la guerre. Aujourd'hui, on a traité une question à caractère humanitaire, disons-le, empêcher que les choses les plus abominables soient perpétrées, mais le nettoyage ethno-confessionnel qui est fait dans les régions reconquises est une réalité. Les gens sont poussés à l'exil et tout le monde, désormais, va dégager à un moment où le régime syrien va aller jusqu'à la frontière, c'est-à-dire reprendre Dera et récupérer sa frontière avec Israël.
Et c'est probablement là, effectivement, qu'on verra la suite de ces événements tragiques. Là, merci beaucoup, Jean-François Daguzan, Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci mille fois.
Merci.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde au Rwanda ce soir. Tout petit pays, immense tragédie, mais aujourd'hui peut-être en train de devenir un exemple en misant sur le numérique, sur l'éducation, sur la technologie. Et c'est Sophie Bécherel qui va vous montrer tout ça. À suivre aussi l'idée des Belges pour recruter de jeunes soldats, laissez-les rentrer chez eux le week-end pour jouer à la console. Tout cela est très sérieux. Trump, saison 2. Et Grégory Philips, bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et des noms d'oiseaux entre l'ancien président du FBI et Donald Trump, c'est pas fini alors?
Oui, d'ailleurs, j'ai cherché à traduire l'insulte proférée par Trump à l'égard de James Comey dimanche matin, slimeball. Ce que j'ai trouvé, c'est raclure.
Écoutez, toutes mes félicitations. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Faure, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On parlait à l'instant du conflit syrien, on se trompe de conflit alors Jean-Marc?
Un peu, oui, pendant que les regards effectivement étaient tournés vers la Syrie, les islamistes attaquaient les bases françaises et onusiennes à Tombouctou au Mali. Et là, on est loin de la mission accomplie.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini. Tom Misch et De La Soul, It Runs Through Me sur France Inter.
1, 2, 3, 4. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. And where I go, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. Hey, you can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it brings clarity. Running through me,
come on, y'all.
You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me,
yeah, it's running through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes. Warmth in the rhythm, soul that glues. The bounce in my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Look tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears.
Tom Misch et De La Soul sur France Inter, It Runs Through Me. Florence Paracuello, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Tom Misch, absolument, Florence. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, et je vais vous dire, moi non plus, mais c'est sûrement la honte pour nous. Sous les radars, Florence commence comme une petite annonce. Recherche, jeune recrue, motivée. C'est l'armée belge qui a du mal à remplir ses casernes.
Plus de 1500 postes à pourvoir. Le problème, c'est pas tellement d'attirer les jeunes, mais de les retenir. 20 à 25% des recrues abandonnent avant la fin de la formation, principalement à cause de la cyberdépendance. C'est l'armée qui le dit. Pas de téléphone portable à la caserne, donc pas de contact avec sa famille, avec ses amis. Pas de Facebook, ce qui est assez logique, explique Dimitri Modert, responsable d'un syndicat des personnels de la défense belge sur RTL Télé.
Le but de la formation, voire de l'entraînement, est de se retrouver dans la même situation à laquelle le militaire sera confronté en opération. Et donc, on sait très bien d'expérience par rapport au théâtre d'opération, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, que ce même militaire, à un moment, ne pourra pas disposer de ce smartphone, voire même n'aura de toute façon pas de réseau.
Eh ben oui, forcément. En attendant, comment maintenir, rajeunir les effectifs de l'armée belge, 28 000 hommes et femmes, donc sans téléphone portable quand ils se forment, 1 000 en opération à l'étranger, parfois sans réseau, donc en Afghanistan, au Mali, auprès de la coalition engagée en Syrie. 44 ans de moyenne d'âge, ça vieillit l'armée belge, 10 ans de plus que l'armée française. Une idée serait d'alléger le casernement pendant la phase de formation. Les jeunes militaires sont déjà autorisés à rentrer chez eux le week-end, ce qui est plutôt sympathique, mais comme ça n'est manifestement pas suffisant, le ministère de la Défense envisage de leur laisser des soirées de libre en semaine et même, pourquoi pas, de supprimer l'internat. Dans ces conditions, quid de l'esprit de corps? Les vétérans et les experts belges sont atterrés. Si les jeunes recrues rentrent dormir à la maison tous les soirs, ils demanderont bientôt des mobilhomes pour partir au front. On ne fait pas la guerre avec des gars qui se languissent de leur maman, dit un ancien para, président d'une association d'anciens combattants.
Allez, en Chine, un hashtag partagé par presque 1,5 million de personnes ce week-end.
I'm gay, not a pervert. Je suis gay, pas un pervers. Le slogan s'est répandu sur les réseaux sociaux, raconte le New York Times, accompagné de cœurs et d'arc-en-ciel pour protester contre la censure de Weibo, le Twitter chinois, dans la veine du grand nettoyage des réseaux sociaux ordonné par le Parti communiste. Weibo annonce que tous les messages relayant la culture gay seront supprimés, les textes, les images, les vidéos. Weibo se doit de promouvoir un environnement clair et harmonieux, c'est une citation, et de se conformer aux lois du président Xi Jinping. L'homosexualité a beau avoir été dépénalisée il y a 20 ans, elle continue à être discriminée en Chine, contraire à la vertu socialiste, comme tout ce qui a trait à la sexualité en général. La semaine dernière, on en avait parlé. Un site a été condamné pour avoir laissé s'échanger des blagues grivoises.
Allez, Florence, on termine avec un coup de pub. Lunaire.
Un projet monté depuis plus d'un an déjà qui sera lancé le 20 juillet 2019. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette date, Fabienne ?
Ben, je me demande.
Le 20juillet 69, un homme marche sur la Lune.
Le petit pas pour l'homme, le grand pas pour l'humanité.
Deux hommes, à vrai dire, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, salués en direct par le président Nixon.
Go ahead, Mr. President, this is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
Cela dit, c'est génial.
Coup de fil historique, un grand pas pour l'humanité. Oui, ça vaut la peine d'aller sur la Lune pour voir Nixon. Un grand pas pour l'humanité, un coup de pub magistral pour les États-Unis. 50 ans plus tard, le groupe de communication britannique Vodafone et l'allemand Audi se sont dit qu'il restait bien quelque chose à en tirer de cet exploit. Ce sera le projet Sanctuary, premier projet entièrement privé en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique. C'est une sonde qui sera envoyée sur la Lune depuis Cap Canaveral pour explorer les vestiges laissés par les astronautes américains et laisser sa propre trace sous la forme de 17 disques de saphir. C'est très dur, le saphir, contenant le témoignage de notre époque sous forme de milliards de pixels de la taille, nous dit-on, d'un 1/50 de l'épaisseur d'un cheveu. Ceux qui les trouveront y découvriront l'intégralité de deux génomes humains, un homme, une femme, une sélection d'informations scientifiques, des œuvres artistiques choisi par des ingénieurs et des graphistes français, canadiens et allemands, auxquels s'ajouteront, Fabienne, 3000 selfies choisis au hasard parmi ceux qu'on peut tous envoyer sur le site du CEA. Donc si vous voulez, vous pourrez peut-être vous retrouver sur la Lune. À qui s'adresse tout ça?
Je suis déjà un peu de temps en temps, si vous saviez.
Vous êtes dans la Lune. Ouais, à vrai. Qui s'adresse tout ça, Fabienne?
À qui s'adresse tout ça, Florence?
Et pas aux extraterrestres. Mais parce non. Que ça, c'était le but des sondes Pioneer et Voyager dans les années 70. Ça s'est terminé, c'est
fini.
Déjà fait.
On n'y croit plus.
Donc, le projet Sanctuary s'adresse à nos descendants, les hommes du futur. Pourquoi? Pourquoi
mais
sur
qu'est-ce
la Lune?
Qu'ils iraient faire sur la Lune, surtout?
Sûrement pour changer, sûrement pour qu'on en parle, évidemment, Fabienne.
Ah,
qu'on parle
que c'est ça,
de
au
ce
bout
vrai
du bout.
Projet scientifique qui est aussi un vrai gros coup de com qui doit coûter très cher, mais j'ai trouvé absolument nulle part le montant de cette petite fantaisie.
Bah écoutez, très cher, et s'il y a l'un de nos selfies, je sais pas, on a qu'à leur demander de l'argent à tous ces gens-là. Allez Florence, merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Il est pour le Rwanda, l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, plus de 20 ans après le génocide. Le Rwanda est un pays en pleine renaissance, un minuscule petit pays enclavé que le président Kagame a décidé d'orienter résolument vers le numérique, vers l'éducation, vers le développement d'infrastructures technologiques et... Ma foi, c'est assez impressionnant. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous en revenez, Sophie, du Rwanda. Vous avez assisté notamment au Next Einstein Forum, donc le forum du prochain Einstein. Cette initiative qui vise à créer une communauté scientifique de classe mondiale en Afrique pour aider au développement du continent, Sophie.
Avec ses rues propres, ses ronds-points assortis d'une végétation hyper soignée, son quartier baptisé Innovation City, Kigali mérite bien son surnom de Suisse de l'Afrique. Qui aurait pu se douter, au sortir du génocide, que le Rwanda et son million de victimes seraient aujourd'hui ce fleuron africain de l'innovation ? C'est le président Kagame qui en a décidé en 2000.
Quand on a commencé à parler d'investir dans les technologies de l'information et de la communication, des gens ont dit et pensé qu'on plaisantait ou qu'on n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ils disaient pourquoi investir dans ces technologies quand les gens n'ont pas à manger, n'ont pas accès à l'éducation ou à la santé. Notre réponse à ça, c'est on n'est pas en capacité de choisir. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les technologies de l'information et de la communication servent à tous ces domaines.
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui au Rwanda, on paie son bus avec le Tap & Go, une sorte de passe Navigo local. On peut demander son extrait de naissance sur Internet, on livre le sang des hôpitaux par drone et les femmes peuvent se faire livrer contraception et préservatifs en toute discrétion après une commande en ligne. Mettre le numérique au cœur de la stratégie de développement du pays, faciliter les démarches pour la création d'entreprises innovantes a permis au pays d'avoir une longueur d'avance. Désormais, quiconque a une idée est encouragé à la développer, comme au Fab Lab de Kigali, un espace de fabrication digitale en accès libre.
On a trois machines ici. Voici une coupeuse laser qui découpe et grave quelques-unes de nos productions. Et puis aussi des imprimantes 3D.
Danny Wismana est facilitateur dans ce Fab Lab, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Je m'appelle James, j'ai 18 ans et je suis au lycée en sciences de l'ingénieur.
Moi, c'est Israël et je suis avec James. Ensemble, on a développé un système de transfert de courant, une nouvelle façon de charger des appareils électroniques sans fil. Et on peut charger des téléphones portables ou d'autres appareils.
Ici, les gens dans les villages ont des idées, mais ils ne savent pas où aller pour les développer. Ce lieu répond à une demande. Ici, on les aide, ils peuvent trouver Internet, des matériaux et même un financement pour concrétiser leur idée. C'est bon pour les Rwandais, ça répond à une vraie demande.
Juste au-dessus du Fab Lab se trouvent les locaux provisoires de l'université Carnegie Mellon, une prestigieuse université américaine qui s'est implantée dans la capitale rwandaise à la demande du président de la République. Michel Bézi la dirige. Depuis 2012, cette université propose deux masters en sciences et elle a récemment ouvert un centre de recherche.
Nous avons dans notre programme pour le moment 100 étudiants de 10 nationalités différentes. C'est une diversité que vous ne trouverez nulle part en Afrique. Si vous allez dans une université africaine, vous allez trouver une, deux, trois nationalités, jamais. Même chez nous, à Pittsburgh, nous avons moins de diversité que ce que nous avons ici. Un étudiant kényan, un étudiant rwandais, un étudiant nigérien, c'est tout à fait différent. Et ça amène une richesse incroyable. Et en combinant le fait qu'ils sont africains et qu'ils comprennent les problèmes de ce marché bien mieux que n'importe quel autre occidental ou autre personne, ils sont vraiment, très rapidement, un tiers de nos étudiants sont dans des positions de leadership dans les entreprises où ils arrivent.
Tirer des cerveaux et des investissements, c'est donc clairement, Sophie, la voie qui a été choisie par le Rwanda.
Récemment, le pays a récupéré le siège d'AIMS, l'African Institute of Mathematical Sciences, un réseau de 6 centres répartis sur le continent et qui accueille les meilleurs étudiants. Jean-Pierre Bourguignon est au conseil scientifique d'AIMS.
Les mathématiques permettaient en fait une chose très importante pour l'Afrique, qui est aussi une réconciliation des populations francophones et anglophones au niveau supérieur. AIMS tout de suite a d'abord essayé de créer une plateforme dans laquelle des gens étaient exposés à des sujets de mathématiques suffisamment larges et dans les deux langues. Donc ça, c'était un des prérequis initiales de Haynes, que les gens qui venaient du monde francophone et du monde anglophone africain se rencontraient et se voyaient offert des cours dans des sujets beaucoup plus vastes que les domaines qu'ils avaient.
L'avantage d'avoir commencé avec les mathématiques, c'est que c'est une discipline moins coûteuse que les autres et qui irrigue beaucoup d'autres domaines, l'informatique, la physique, les réseaux de communication ou de transport et la médecine désormais. Mais à terme, ce que veut Ames pour le développement de l'Afrique, c'est constituer un réseau, une masse critique de chercheurs. Ce réseau de matières grises africaines aura une vertu selon Eliane Oubalijoro, une canado-rwandaise, professeure à l'université McGill et membre du Conseil national des sciences et de la technologie du Rwanda.
Moi, je pense que l'économie de la connaissance a une telle complexité qu'elle exige que nous travaillions tous ensemble. Alors, ça crée des opportunités pour avoir du leadership en collaboration qui fait que personne ne peut dire « moi, je vais prendre le pouvoir à moi toute seule ». Et quand on doit collaborer, on est plus ouvert. Il y a moins de tendance à la corruption parce que la complexité est telle qu'il n'y a pas moyen de dire « je peux réussir sans mon voisin et ma voisine ».
Pour Michel Bézy de l'université Carnegie Mellon, le temps presse, sinon d'autres récupéreront le fabuleux marché africain.
L'innovation, tout ce qu'on a besoin, c'est des cerveaux. Et développer des softwares et peut-être un peu de technologie, c'est tout. Ça peut se faire ici. Et l'idée du gouvernement en invitant Carnegie Mellon, c'est un peu de reproduire le modèle de Silicon Valley, où une université de classe mondiale qui est Stanford University a vu ses étudiants démarrer des idées, HP, Facebook, Apple, tout ça, ça a démarré là-bas. Et la même idée prend place ici. Le problème, c'est la masse critique. Et ça, c'est un problème au niveau africain, où il va falloir que les pays africains se mettent ensemble. Si les Africains ne le font pas dans les 5 à 10 années à venir, l'Ouest va venir et prendre le marché à leur place.
À Kigali, fin mars, les États africains ont évoqué l'idée de consacrer 1% de leur richesse à la recherche et l'innovation d'ici 2 ans et 3% d'ici 2025. C'est ambitieux, mais la réussite du Rwanda montre que cela peut s'avérer payant.
Sophie Bécherel, au Rwanda, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, voici Nancy Sinatra sur France Inter, Day Tripper.
Easy way out. Got a good reason for taking the easy way out now. He was a day tripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out. He was a day tripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out. I found out.
Formidable Nancy Sinatra sur France Inter, Day Tripper.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Sintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Donald Trump, saison 2, c'est l'actu en série du lundi. Avec vous, Grégory Phillips. Comme à chaque fois, Grégory, après le livre, l'interview qui rend furieux votre président, c'est l'interview accordée hier à la chaîne ABC par James Comey. C'est l'ancien directeur du FBI qui a été viré par Trump en mai dernier. Et c'est peu dire que ça a grandement agacé votre président.
Oui, on a compté dimanche matin, avant la diffusion de cet entretien, pas moins de 7 tweets du président pour littéralement insulter l'ancien patron du FBI. L'une de ces insultes, on le disait, c'est slimeball, compliqué à traduire, raclure est peut-être le mot qui s'en approche le plus. Il faut dire qu'on savait que le soir même, James Comey aurait des mots extrêmement durs à l'égard du 45e président des États-Unis. Voici sa réponse, par exemple, quand Stephanopoulos, le journaliste d'ABC News, lui demande s'il pense que Trump est inapte à la fonction de président.
Une personne qui met sur le même pied d'égalité les manifestants de Charlottesville, qui traite et qui parle des femmes comme si elles étaient des morceaux de viande, qui ment en permanence sur la taille des foules, par exemple, et qui insiste pour que les Américains le croient, cette personne n'est pas apte à diriger les États-Unis. Du point de vue moral, notre président doit incarner le respect et les valeurs de ce pays, et en particulier la vérité. Ce président n'en est pas capable. Il n'est pas capable, sur le plan moral, d'être président.
Voilà, pendant cette longue entretien, Comey raconte aussi l'obsession de Trump qui demande au FBI de prouver qu'il n'a pas participé à une soirée en 2013 avec des prostituées à Moscou. Comey, enfin, qui répond ceci quand on lui demande s'il pense que les Russes ont quelque chose sur Donald Trump.
Pensez-vous que les Russes ont quelque chose sur Donald Trump ?
Je crois que c'est possible. Je ne sais pas, je n'aurais jamais cru utiliser ces mots pour un président américain, mais c'est possible, c'est stupéfiant. J'aimerais ne pas avoir à dire cela, mais c'est la vérité, ça me déplaît fortement. Pour tous les autres présidents, je dirais non, mais là, je ne peux pas. C'est possible.
Voilà Fabienne, et les mémoires de James Comey sortent demain aux États-Unis. L'éditeur a tiré le livre à près d'un million d'exemplaires. C'est déjà en tête des ventes sur Amazon.
Voilà, et déjà traduit puisqu'on l'a reçu nous aussi au bureau d'Un jour dans le monde, Grégory, figurez-vous. Et pourtant les sondages de Trump sont plutôt favorables, hein.
Oui, avec une cote de popularité à environ 40%, ça reste bas, mais Trump remonte dans les sondages depuis quelques semaines, c'est vrai, il faut le noter. Et puis vous savez Fabienne qu'on a évidemment en ligne de mire les élections de mi-mandat en novembre, et là, eh bien, l'avantage que les démocrates ont est en train de se réduire un petit peu, selon un sondage ABC Washington Post publié ce matin, à 7 mois des élections. Attention, rien n'est encore joué.
Alors, Grégory, Trump maintenant donc en chef de guerre, avec les frappes sur la Syrie qui ont été déclenchées dans la nuit de vendredi à samedi, vous avez remarqué, vous, une sorte de léger couac dans la communication de la Maison Blanche. On parle d'une photo qui a été publiée par la porte-parole Sarah Sanders.
Oui, alors dimanche matin, Sanders publie une photo de la Situation Room où on voit le président entouré de son équipe. À gauche de Trump, il y a son conseiller à la sécurité nationale John Bolton. À sa droite, le vice-président Mike Pence. Sauf que vendredi, quand les frappes ont été décidées, eh bien Pence n'était pas à Washington, mais au Pérou, au sommet des Amériques.
C'est
en fait,
pareil.
La photo avait été prise. C'est pas tout à fait pareil. La photo en fait a été prise jeudi, 24 heures plus tôt. Ça change pas grand-chose, vous allez me dire, mais la porte-parole de la Maison Blanche a quand même dû le préciser par la suite.
Ils sont trop forts, ces Américains. Ça s'appelle le don d'ubiquité, Grégory. Qu'est-ce que vous croyez? Et puis, dans ces années Trump que vous nous chroniquez, Grégory, il y a bien une reine, et c'est Beyoncé. Samedi soir, elle était au fameux festival Coachella de Californie. Et vous dites qu'elle a marqué l'histoire. Vous êtes un petit peu emballé, peut-être, Grégory.
Non, c'est pas moi qui le dis, c'est toute la presse américaine, unanime. Beyoncé, première femme noire à occuper la scène de l'énorme festival de Coachella. Et en 2 heures de concert, Queen Bee a démontré qu'elle était non seulement une bête de scène, mais aussi complètement dans l'époque d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que féministe, quand elle arrive habillée en Nefertiti, et militante du droit des Africains américains, citant Nina Simone et Malcolm X. Incroyable performance de Beyoncé à Coachella. Allez, voici un extrait, son arrivée sur scène au son d'un marching band.
Voilà, on a compris que vous étiez fan, Grégory, c'est bien clair. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, tous les soirs, dont Un jour dans le monde. Jean-Marc, l'événement est passé presque inaperçu ce week-end à cause des frappes en Syrie, bien sûr, mais à Tombouctou, on est dans le nord du Mali, les troupes françaises et onusiennes ont été la cible d'une attaque sans précédent de la part des groupes terroristes. Et dans votre Monde à l'envers, ce soir, vous nous dites que c'est un événement militaire et stratégique bien plus important que ce qui s'est passé en Syrie.
Un petit retour en arrière pour commencer, si vous voulez bien. Le 19 septembre 2013, François Hollande, qui est alors président de la République, est à Bamako, au Mali, pour célébrer les succès de l'intervention Serval. Et il s'enflamme. Nous avons gagné cette guerre! Il y a parfois des phrases qu'on ferait mieux de ne pas avoir prononcées. 4 ans et demi après, donc avant-hier samedi, les islamistes n'hésitent pas à attaquer en effet la zone la plus sécurisée de Bamako, au sud de la ville, près de l'aéroport. Je veux parler du Supercamp, c'est son nom, le Supercamp des forces de l'ONU et des soldats français de l'opération Barkhane qui a succédé à Serval. opérations professionnelles, tirs de mortier et de roquettes, utilisation de véhicules piégés maquillés en pick-up de l'ONU. Bref, un assaut en bonne et due forme pour prendre le contrôle du camp. C'est un peu à l'image des attaques qui se produisent de temps à autre dans le centre de Kaboul en Afghanistan. Les combats ont duré tout l'après-midi et sans l'envoi de 3 commandos héliportés français, les terroristes auraient peut-être pris le contrôle de la base. Bilan officiel, 1 mort, 7 blessés côté MINUSMA, l'opération de l'ONU et Barkhane, 15 morts côté terroristes. Tombouctou, donc, la grande ville mythologique des manuscrits théoriquement libérée depuis 5 ans, est en fait en partie aux mains des islamistes. Les groupes extrémistes se sont progressivement réarmés, chassés des villes. Ils se sont reconstitués dans les campagnes et les déserts, en particulier à la frontière avec le Niger. Et ils compteraient environ 3000 combattants.
Et en plus, ce que vous dites, Jean-Marc, c'est que cette attaque, c'est la partie émergée de l'iceberg seulement.
C'est ça qui est inquiétant. Pendant longtemps, les combats se sont limités au nord du pays. C'est la zone traditionnelle de tension avec les populations touaregs et arabes. Et surtout, c'est la porte d'entrée de l'immense région désertique située entre Algérie, Niger, Tchad, Libye. Un territoire presque aussi vaste, imaginez-le, que l'Union européenne, où les groupes islamistes trouvent donc logiquement refuge, notamment Jamaat al-Nosra al-Islam ou al-Muslimim. C'est une coalition de djihadistes formée autour du leader très recherché Iyad al-Khali. Le souci, c'est que les accrochages se propagent de plus en plus dans le reste du pays. Au centre, dans la région de Mopti, où une partie des populations peulent se radicalisent face au dédain du pouvoir central de Bamako, et même dans le sud du pays, en allant vers le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. Le tout avec des effets en chaîne incontrôlables, puisqu'on voit logiquement ensuite apparaître des milices d'autodéfense qui elles-mêmes pratiquent les représailles, etc. Donc, en résumé, ce week-end, les états-majors occidentaux parlent d'une mission accomplie en Syrie, peut-être. Au Mali, en revanche, on en est loin.
Et alors, ce serait quoi, la mission accomplie ?
Les militaires ne sont pas en cause, ils ne peuvent pas tout. Aujourd'hui, l'opération au Mali combine près de 14 000 hommes, en ajoutant les 4 000 soldats français de Barkhane et les 10 000 hommes de la MINUSMA, donc la force de l'ONU. C'est la plus grosse opération internationale en cours dans le monde. La plus meurtrière aussi. Déjà plus de 160 morts depuis le début de l'intervention. Et depuis le début de l'année, les opérations de Barkhane se sont durcies et multipliées. Mais plus les mois passent, déjà plus de 5 ans, plus le risque augmente d'être perçu, si vous voulez, comme une force d'occupation. Autrement dit, comme toujours, le raisonnement uniquement militaire ne suffit pas. Ce dont le Mali a besoin sans doute, c'est aussi d'un processus politique. Et il est toujours dans les lames, même s'il y a des embryons de négociations ici ou là, surtout dans la région du centre, dans la région de Mopti. L'aide déversée à Bamako échoue, on ne sait pas trop où, mais pas vraiment dans un processus politique efficace qui verrait à la fois une discussion constructive, y compris avec les groupes radicaux, un processus de dévolution régionale dans un pays qui est éclaté entre ces différentes ethnies et une relance économique par le reboisement, les cultures céréalières et les travaux d'infrastructures publiques. Sans processus politique, la situation sécuritaire ne peut qu'empirer façon Afghanistan ou façon Somalie. Donc non, décidément, la mission n'est pas accomplie.
Et on y reviendra d'ailleurs, Jean-Marc, au Mali. On y reviendra demain et en longueur dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.